Et nous verrons encore à la fin une parole pour les saints vainqueurs qui est merveilleuse. Ce sera une motivation pour tellement d'entre nous. Mais d'une manière calme, nous allons voir les différents aspects de la louange et l'obéissance qui amène la louange. Donc, lorsque nous sommes dans une situation dans laquelle nous n'obéissons pas totalement au Seigneur, nous ne pouvons pas alors le louer. Même si nous le louons dans d'autres situations diverses, mais il y a une autre situation où nous devons d'abord obéir au Seigneur. Et alors que nous faisons ça, alors cela va amener la louange. Donc, nous devons voir les sous-points. Ce ne sera peut-être pas un temps très heureux, mais c'est un temps important. La première catégorie, des problèmes. La première catégorie est celle des problèmes qui proviennent de nos circonstances et des situations autour de nous. La manière de vaincre ces problèmes est la louange. Donc il y a ces problèmes, et qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne faut pas essayer de les résoudre, mais simplement de louer le Seigneur. Et ensuite, le point 2. La seconde catégorie est celle des problèmes au fond de nous. Lorsque nous confrontons une grande épreuve personnelle et une grande injustice, le moment n'est pas venu de prier, mais de louer. Lorsque nous sommes attaqués de cette manière ou critiqués de cette manière, on ne devrait pas essayer de se défendre. Mais la réponse doit être la louange. C'est notre manière de répondre à l'ennemi et il sera vaincu encore une fois. Le point B, la victoire arrive lorsque nous inclinons la tête et louons le Seigneur. Donc nous voulons avoir la victoire d'une manière telle. Ça ne veut pas dire qu'on doit... Le fait d'incliner toujours notre tête comme ça, physiquement, ce n'est pas faux, mais au moins de manière interne, on doit s'incliner. Et ensuite, notre réponse pourra encore une fois être la louange du Seigneur de sa victoire. Lorsque nous louons le Seigneur, notre esprit s'élève au-dessus de nos problèmes. Ça va être vraiment merveilleux pour chacun d'entre vous. Lorsque nous louons le Seigneur, notre esprit s'élève au-dessus de nos problèmes. Il s'envole comme ça. Il s'élève au-dessus de nos problèmes. Les problèmes sont toujours là, mais nous nous élevons, nous transcendons ces problèmes. Nous sommes bien au-dessus d'eux. Et ça va vraiment faire honte à l'ennemi. La vie chrétienne s'élève au moyen des louanges. Louer, c'est tout transcender, afin de toucher le Seigneur. Cela est le chemin que le Seigneur Jésus prenait lorsqu'il était sur la terre. Nous devrions prendre le même chemin. nous revenons au point E. Louer, c'est tout transcender, afin de toucher le Seigneur. Nous sommes plus haut que toute chose et que n'importe quelle chose. Ensuite, le point F. Dès que nous louons, nous sommes au-dessus des épreuves. Plus les autres essayent de nous opprimer, plus nous devrions nous lever devant le Seigneur et dire « Je te remercie et je te loue. » Amen. Rien ne peut faire mûrir et faire arriver à maturité un enfant de Dieu plus que les sacrifices de louange. Rien ne peut faire arriver à maturité un enfant de Dieu plus que les sacrifices de louange. Donc en fait, dans cette situation, le sacrifice qui prend place au milieu de cette situation, c'est le fait de ne pas attendre qu'il y ait quelque chose qui change dans la situation, mais c'est de simplement louer le Seigneur. La louange vient avant la compréhension. Ça, c'est un point très pratique. N'essayez pas de tout comprendre d'abord, pour qu'ensuite vous soyez plein de compréhension et que vous puissiez ensuite louer le Seigneur. Ça, c'est un chemin superficiel. Parce que louer le Seigneur doit prendre place que nous comprenions ou pas la situation. Dans Psaume 50, 23, Dieu dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Dans ce verset, les actions de grâce pourraient aussi être traduites par « louange ». Et le point 3, c'est un point très tendre. Le Seigneur attend nos louanges. Et pour certains d'entre nous, il attend depuis longtemps. Mais quand la louange prend place, nous apprécions simplement quand nous louons que notre Seigneur, l'attente du Seigneur prend fin. Même à ce moment-là, à ce moment précis, certains d'entre vous attendent que le Seigneur complète quelque chose ou termine quelque chose. Mais il y a cet aspect de la vie chrétienne d'attente. Certains attendent des décennies. Et ça a un effet sur le Dieu trinitaire. Un jour, toutes les prières, toutes les œuvres, toutes les prophéties seront terminées. Mais en ce jour-là, nos louanges seront plus grandes qu'aujourd'hui. Donc n'essayez pas d'être déjà dans l'âge suivant. Ce sera beaucoup plus grandiose qu'aujourd'hui. Ensuite, les louanges vont durer beaucoup d'années. Non. La louange durera toute l'éternité. Elle ne cessera jamais. Ce sera pour toujours. Elle ne cessera jamais. Plus nous avons de connaissances, plus nos louanges seront élevées. Si nous croyons, nous louerons. Ça, c'est relié au dernier message. Au fait que notre foi est développée. Si nous croyons, alors nous louerons. Que le Seigneur vous dise intérieurement, vous dise, que vous puissiez lui dire, Seigneur, je veux que tu reviennes. Le point 9 nous dit, nos louanges sont sa gloire. Louer revient à glorifier Dieu. Je crois que beaucoup d'entre nous ont un sentiment très profond à propos de ce point. Jour après jour, il y a de la colère que certains veulent exprimer à propos d'une situation envers Dieu. En fait, des millions de gens ont fait ça pendant des siècles. Et on va louer le Seigneur. Nos louanges sont vraiment sa gloire. Louer revient à glorifier Dieu. En ce jour du Seigneur, de glorifier le Seigneur. C'est la réunion du Seigneur, ce n'est pas une occasion pour nous de parler de nos situations ou de faire quoi que ce soit en ce qui nous concerne. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Que le Seigneur obtienne, puisse Dieu obtenir une abondance de louanges parmi ses enfants. Donc ça, c'est vraiment une autre vue, une autre vision, perspective de la louange. À présent, nous venons au point de l'Église en dégradation et de la victoire dans cette Église. Nous devons vraiment avoir une compréhension adéquate, une bonne vision de cela. Je vais partager quelque chose que j'ai partagé plusieurs fois, sans en être conscient. J'ai demandé au Seigneur simplement, je ne veux pas seulement comprendre quelque chose. C'était dans les années 80, à Anaheim, tous les jours de la table du Seigneur, j'étais assis. Et ça ressemblait à ma situation quand j'étais assis dans une église presbytérienne. Même si on était dans l'église recouvrée. Mais l'aspect de la religiosité dans différents endroits, d'une manière très subtile et même d'une manière cachée, même si notre position est correcte, mais l'atmosphère est presque la même que celle dans la chrétienté. Et c'est à ça qu'on fait référence quand on pointe la dégradation de l'Église. Et nous devons vraiment voir cela directement, pas d'une manière subjective, mais pour comprendre les faits. Et cela va ouvrir la voie à ce que j'ai mentionné, qui est le pic, le haut point, le fardeau de la révélation et de l'évangile du royaume. Mais nous devons vraiment comprendre profondément cela. Il y a une différence entre les échecs de l'Église et la dégradation de l'Église. Si les échecs dans les églises ne sont pas si radicaux, la dégradation de l'Église est plus que radicale, car elle coupe la racine qui produit la vie, l'existence et la croissance de l'Église. Ça, c'est déjà en train de se produire dans pas beaucoup de localités. Mais cela a été porté à mon attention que certains saints endurent cela parce que la racine de la vie et l'existence et la croissance que cette vie produit a été coupée. Et que ça se produit mois après mois, année après année, et qu'on sait exactement comment la réunion de la table va se produire. C'est d'une manière ordinaire, et il faut venir en étant rempli du Seigneur qui a saturé, rempli votre être, et venir pour le remercier, pour l'exalter, pour le louer. Mais l'Église en dégradation, dans cette Église, la réunion de la table du Seigneur devient religieuse. Et la dégradation, non seulement invite les actes répréhensibles, mais elle coupe aussi la racine de l'arbre qu'est l'Église. Donc ici, l'arbre, c'est assurément l'arbre de la vie. Et je vais faire une pause ici pour m'attarder sur l'arbre de vie. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons une compréhension adéquate de ces deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et frère Ni nous a donné un message profond à propos de ça parce qu'il avait réalisé que, en fait, tellement de saints vivent selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon le bien et le mal. Ils veulent être dans le bien, ils veulent avoir raison et ils se mettent à argumenter. Et on argumente seulement quand on pense qu'on a raison. Je ne sais pas combien de gens disent « Je suis désolé, pardonne-moi, c'est moi qui ai tort. » Voilà. Au lieu de ça, ils disent « J'ai raison et tu as tort. » À cause de ça, la mort va s'immiscer parce que on vit par cet arbre du bien et du mal, et ça va couper la racine qui produit la vie divine. Donc il faut que nous considérions personnellement dans notre vie quotidienne, par quel arbre est-ce qu'on vit? Est-ce que c'est par l'arbre de vie ou par l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si vous êtes marié, quand vous avez des disputes, et c'est un euphémisme peut-être le mot dispute, pourquoi est-ce que on est au milieu d'une dispute? C'est parce que il a raison et il a tort et moi j'ai raison. Et je ne vais pas permettre que ça se produise, que ça se continue. Et je dirais que dans ce cas-là, le mari, le frère, vous devez être celui qui prend la bonne conduite. Car si la question vient et que vous réalisez que c'est, ça concerne le bien ou le mal, alors vous ne devez pas alimenter la dispute. Mais votre réponse doit être dans l'arbre de vie et pas dans l'arbre du bien et du mal. C'est facile à comprendre cela, mais de le vivre, de l'appliquer de cette manière, il y a quelque chose qui doit prendre place dans votre être de manière expérimentielle. Je dois vraiment remercier le Seigneur pour sa gentillesse et pour sa sagesse. Quand j'étais un saint très jeune encore, dans le recouvrement, ça faisait seulement 2 ans, et je priais, lisais des versets en particulier. Et le Seigneur a utilisé ces versets pour couper la véritable source de notre être. Parce qu'il y a deux sources, il y a ces deux arbres dans notre être. Et finalement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne sera plus la source de notre vie, mais nous vivrons par l'arbre de la vie. Et nous aurons la réponse adéquate à toutes sortes de situations. Et nous ne pourrons plus nous disputer. Nous n'aurons plus cette notion que quelqu'un a tort, quelqu'un a raison. Mais c'est un défi. Nous devons rester dans notre esprit. Parfois, nous ne pouvons même rien dire. Ou alors, nous répondons d'une manière très différente. Donc, nous en venons maintenant à la section B, où nous allons vraiment identifier les différents aspects de la dégradation de l'Église recouvrée. C'est comme un tableau et il y a différentes peintures. Et ce que nous pouvons faire, c'est de vous aider à comprendre les différents aspects de la situation. On ne fait pas cela en jugeant, mais c'est pour vous aider à mieux comprendre. Donc le premier aspect de la dégradation de l'Église, c'est la hiérarchie. C'est quelque chose qui vient, qui est plus haut que vous. Donc laissez-moi vous demander. Donc il ne faut pas répondre à ça de manière verbale. Est-ce qu'il y a dans votre Église locale des frères qui sont des anciens? Est-ce qu'ils sont plus hauts que vous? Si vous n'êtes pas un ancien, vous n'êtes pas sur ce Vous devez. Vous êtes vraiment un ancien. Votre fonction, ce n'est pas d'être plus haut que les autres, mais de les paître, de vous soucier d'eux, avec un soin aimant et tout inclusif. Le deuxième aspect de la dégradation de l'Église est son union avec le monde. Donc, il y a quelque chose qui prend place dans le monde et il y a une relation avec cela d'une certaine manière. Et le troisième aspect, le point 3, le troisième aspect de la dégradation de l'Église est l'idolâtrie. Ce n'est pas forcément des items visibles, mais ça peut être des choses invisibles qui deviennent pratiquement des distractions. Ensuite, le point 4. Le quatrième aspect de la dégradation de l'Église, c'est de ne pas laisser Dieu parler. Je me souviens, j'étais encore très jeune, mais un jour de la table du Seigneur, il y avait un saint d'un âge moyen. Et il se levait. Mais il ne permettait pas à Dieu de parler. C'est lui qui voulait parler. Il n'a pas dit, Dieu ne peut pas parler, c'est moi qui veux parler, mais c'était ce qui se passait dans sa personne. Donc ça, c'est un autre signe de la dégradation. Le fait de ne pas laisser Dieu parler. Je ne sais pas comment les versets dans Apocalypse 2 et 3 vont se déroulé, mais ça va être accompli. Le Seigneur, il parle aux messagers de l'Église. Car dans Apocalypse 1, 20, il est dit que l'étoile l'étoile brille. Et il faut parler ce ministère de cette manière. Et le Seigneur, il parle à travers le messager. Et je continue à me demander, est-ce que les églises connaissent en fait la situation de l'Église, ses besoins, les besoins de l'Église? Si on lit Apocalypse 2 et 3, le Seigneur n'a pas. Il a envoyé des messagers directement aux églises pour qu'ils parlent directement aux églises des besoins. Je ne peux pas aller dans les détails. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça réassurant, mais avant qu'il nous quitte, frère Lee à porter ça à notre attention dans le ministère. Et à mon tour, j'ai amené ce sujet au Seigneur et je lui ai demandé qu'est-ce que je dois dire aux églises. Et je suis retourné à ce que Frère Lee avait dit. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'est que c'était de voir que tel aspect et tel aspect dans l'Église où nous sommes doit être développé. Et donc, à présent, je vais juste laisser les frères. Je ne vais pas... C'est OK, je ne vais pas vous dire quelle est la situation. Parce que il n'y a pas d'ouverture pour recevoir en fait du Seigneur lui-même. Mais si on regarde juste certains endroits et que pour chacun il y a l'appel pour vaincre, même dans une église authentique, il y a cet appel. Et donc c'est un sujet très sérieux, mais c'est un besoin, c'est nécessaire. Le cinquième aspect de la dégradation de l'Église est la présence de division. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des divisions comme dans les dénominations, mais que dans les relations entre les saints, il y a des divisions. Il y a des groupes. Dans les années 90, à Anaheim, il y avait une sœur qui était la reine. Elle était une sœur parmi des centaines d'autres, mais c'était comme une reine. Et le frère Lee avait eu une conférence avec l'église là-bas. Et alors qu'il parlait, cette sœur était au deuxième rang. Et il s'est approché et il lui a parlé directement. Et il a dit, dans une réunion, ne vous asseyez jamais comme ça ensemble, plus jamais. Et donc, c'est possible qu'il y ait des divisions parmi les sœurs, parce qu'on n'apprécie pas tout le monde de la même manière. Et ce qui s'est passé avec cette reine et avec d'autres sœurs proches, il y a ensuite eu une rébellion et 50 d'entre elles ont quitté l'Église, ont quitté le recouvrement du Seigneur. Et seul le Seigneur sait quelle est leur condition à présent. Parce qu'elles avaient reconnu le recouvrement du Seigneur. Mais lorsqu'elles seront devant le trône du jugement, elles recevront un jugement même plus fort que les chrétiens lambda qui n'ont jamais entendu parler du recouvrement. Donc c'est quelque chose de très sérieux parce qu'elles étaient dans l'église recouvrée. Mais c'est quelque chose qui se passe, qui peut se passer. Et je n'exagère pas. Car cette sœur qui se comportait comme une reine, elle disait qu'elle avait expérimenté tellement de choses que même les collaborateurs n'avaient pas expérimenté. Et qu'on allait les mettre ça dans un livre, que tout. Elle disait que qu'on allait être, qu'elles allaient être enlevées et que ensuite ceux qui étaient restés, ils pourraient étudier le livre avec toutes ces expériences et qu'ils sauraient quoi faire. Mais ça, c'est Satan qui, d'une manière subtile, essaye de endommager l'Église recouvrée. Et il y aura des divisions. Ensuite, le point 6. Le sixième aspect de la dégradation de l'Église est celui d'organiser, de s'organiser dans le but d'unifier. Donc, c'est comme dans une entreprise, de s'organiser pour s'unifier. On a un but. On doit comprendre comment ça se passe. Le septième aspect de la dégradation de l'Église est l'usurpation de la position de Christ comme la tête et l'empiètement sur l'autorité du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment très sérieux par rapport à l'autorité. Il y aura à la fin du mois de novembre, lors de la conférence des actions de grâce, de Thanksgiving, il y aura beaucoup de saints qui auront à traiter de ce sujet, le sujet d'autorité. Et c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit comprendre de manière adéquate. Je vais vous donner une indication de ce qu'on va parler de ça. Seulement Dieu a l'autorité. Seulement Dieu. Si vous allez à la fin de Matthieu, du chapitre 28, le Christ ressuscité qui mange avec ses serviteurs, il dit: j'ai toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et je parle directement aux frères qui ont une responsabilité. J'espère que vous êtes au clair, très au clair, comme du cristal, à propos de ça, que le seul qui a l'autorité, c'est Dieu. Et que vous-même, vous n'aurez jamais d'autorité. Ce que le Seigneur peut faire et va faire, alors qu'il le choisit, il choisit ce à travers qui son autorité sera transmise, sera exprimée dans telle situation. Donc vous-même, vous n'avez pas une quelconque autorité, mais vous avez la fonction, comme un esclave, de servir le Seigneur. Et dans je réalise que les saints qui ont souffert à travers l'histoire, ils savent le prix à payer. Mais d'une manière très réelle, on sert tous le Seigneur de cette manière. Et donc, cette autorité doit grandir dans chacun d'entre nous. Je ne veux pas en dire trop, mais j'aimerais partager encore un peu. je dois juste remercier le Seigneur pour sa sagesse. En juin 1966, je suis venu dans le recouvrement du Seigneur en octobre 1966. Et j'étais assez actif avec d'autres saints. Et je me rappelle d'une sœur qui était plus âgée que moi, et moi je l'avais aidée. Et elle m'a dit, on a fait une grande erreur parce que nous n'avons pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité, seulement Dieu a l'autorité. Et un frère avec qui j'avais servi, il m'a dit la même chose. Et je remercie le Seigneur qu'il m'a jugé quand, à ce moment-là, et que j'ai eu l'opportunité de me repentir. Et donc, quand je suis venu dans le recouvrement du Seigneur, je n'ai pas touché à l'autorité et je n'ai pas essayé d'avoir une portion, une parcelle d'autorité. Et c'est pour ça que je me focalise là-dessus, dans ce temps limité que nous avons, pour que nous réalisions que seulement le Dieu trinitaire a l'autorité et que le Christ ressuscité, qui sert le Seigneur, le Dieu le Père, qui lui a donné toute autorité. Et nous devons savoir, nous devons connaître Christ dans cet aspect particulier. Ce n'est pas quelque chose de quotidien, mais il y aura certains points, certains moments dans votre vie, des moments où votre vie, elle va changer. Et vous réaliserez que ça, c'est Dieu qui fonctionne. Et que selon son autorité. Et qu'on va pouvoir dire honnêtement, je t'obéis, c'est toi qui as l'autorité. Et que nous sommes sous l'autorité, quand nous sommes sous l'autorité, alors nous sommes à l'endroit le plus sécurisé où nous pouvons être. Et que lorsque les démons essayent de nous attaquer, alors la puissance qui est derrière l'autorité du Dieu trinitaire va vaincre l'ennemi. Donc maintenant, nous arrivons au fardeau principal du message. Et nous allons voir ça de manière très attentive. Donc le point C. Dans Apocalypse 3, 21, le Seigneur dit, « Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc nous n'avons pas le mot royaume pour l'instant, mais nous avons le Seigneur sur son trône. Et ça peut être assez éclairant pour vous de lire chapitres 4 et 5 de Apocalypse. Ça va vous permettre de comprendre de mieux en mieux qu'est-ce que le trône. C'est le Seigneur qui est maintenant avec toute l'autorité sur la terre et dans les cieux. Il est assis sur le trône avec son Père. Et c'est ça que le Seigneur rend clair, c'est qu'il va vaincre. Celui qui vaincra, il lui donnera. Donc celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. En d'autres termes, pendant 1000 ans, quand le Seigneur il va nous placer en tant que co-roi et que selon notre compréhension spirituelle, on sera assis avec le Seigneur sur son trône. Ce sera notre position, cette position dans laquelle on sera, mais pas dans cet âge maintenant. Et maintenant, nous avons 8 points qui nous montrent en détail qu'est-ce que ça implique. Donc le point 1, s'asseoir avec le Seigneur sur son trône sera une récompense pour le vainqueur, afin qu'il puisse participer à l'autorité du Seigneur pendant le royaume millénaire qui vient. Ça, c'est un cadeau merveilleux de s'asseoir avec le Seigneur sur son trône. C'est comme s'il nous disait, viens t'asseoir à côté de moi sur le trône. D'une manière corporative, nous allons régner sur la terre. Ce sera une récompense pour le vainqueur. C'est pas juste un cadeau, mais une récompense. Afin que le vainqueur puisse participer à l'autorité du Seigneur. Encore une fois, c'est le Seigneur qui a l'autorité, mais nous participons à l'autorité du Seigneur. Lors du royaume millénaire qui vient, nous participerons à cette autorité. Donc, alors que nous comprenons cela, ce sujet de l'autorité, de tous ces aspects, alors nous réalisons que nous sommes en train d'être formés, d'être entraînés, d'être enseignés, et qu'un cadeau, une récompense nous sera donnée, une récompense qui va au-delà de notre imagination, c'est d'être assis avec le Seigneur sur son trône. On ne sera pas seulement assis là, mais on va aussi participer à l'autorité du Seigneur. Et donc, il y aura une certaine partie de la terre qui vous sera donnée. Et l'autorité du Seigneur sera appliquée à l'endroit où vous êtes, où vous serez. J'ai une pensée pour illustrer tout ça, parce que le message est presque fini, mais je réalise, il est à 97% fini, mais je réalise, il n'est pas encore fini. C'est un fait que nous sommes tous très forts. Pourrions combattre des pays très forts. Certains pays sont très forts, ils sont très... ils ne seront pas vaincus facilement, mais quelqu'un doit avoir l'autorité sur ces pays-là. Quand on entend parler de Jérusalem, de quoi ça a l'air, cette ville? Je ne sais pas si on va pouvoir avoir ce genre de communion, mais on va attendre, on va voir. Le point 2 nous dit que cela signifie que les vainqueurs seront ensemble rois avec Christ et qu'ils gouverneront toute la terre. Quel cadeau pour les saints vainqueurs. Nous serons co-rois. Nous régnerons avec Christ. Tant les hommes que les femmes, il n'y aura pas de reine. Nous serons tous co-rois. Nous serons ensemble rois avec Christ. Tout comme les frères font partie de l'épouse. Donc, ils régneront, ils gouverneront avec Christ sur toute la terre. Et nous pouvons juste crier au Seigneur, avoir de la communion avec le Seigneur, lui dire, Seigneur, il y aura un besoin d'avoir des co-rois qui régneront sur la terre avec toi. Dans chaque pays, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans chaque endroit. Seigneur, suscite des saints vainqueurs dans chaque pays, dans chaque nation, qui viennent de chaque arrière-plan et culture, et qu'ils soient formés pour être des co-rois et qu'ils puissent gouverner la terre pendant 1000 ans. Le point 3. Toutes les promesses dans les sept épîtres d'Apocalypse, dans les sept épîtres d'Apocalypse 2 et 3, sont liées au royaume qui vient. Donc si vous avez le sentiment et le temps, vraiment relisez ces deux chapitres encore une fois, avec cette vue, cette vision du royaume qui vient. Et de plus en plus, cela va être développé dans notre être, que sur toute la terre, il y a des gouvernements. Il doit y avoir un gouvernement dans chaque pays, mais lorsque Christ va revenir avec son épouse, nous serons co-rois avec lui sur la terre. Et il y aura besoin que le royaume soit exprimé dans chaque pays. Et le gouvernement humain sera parti. Il n'y aura plus de vote, de votation à propos de plus d'élections du président des États-Unis. Et je doute qu'il n'y ait qu'un seul co-roi aux États-Unis, mais il y aura probablement beaucoup de co-rois qui auront plusieurs régions. Ça, c'est au Seigneur de décider. Ils exprimeront le Seigneur lui-même. C'est pour cela que nous avons besoin de relire ces sept épîtres qui sont dans Apocalypse 2 et 3, avec ce point de vue, cette perspective du royaume qui vient. Le point 4. Tout propos négatif concernant la perte ou la souffrance est en lien avec une perte pendant le royaume qui vient. Et tout propos positif concernant un gain ou une réjouissance renvoie à la réjouissance de Christ comme notre portion spéciale durant l'âge du royaume. Nous devons revoir cela, c'est un point très long. Donc tout propos négatif concernant la perte ou la souffrance est en lien avec une perte pendant le royaume qui vient. Et tout propos positif concernant un gain ou une réjouissance renvoie à la jouissance de Christ comme notre portion spéciale durant l'âge du royaume. Donc, la jouissance de Christ. Nous aurons une portion spéciale de la jouissance de Christ durant l'âge du royaume, donc pendant 1000 ans. Notre règne, notre gouvernement aura sa source dans la réjouissance de Christ. Le point 5. Nous avons besoin de perspicacité pour comprendre ces promesses correctement. Nous devons demander au Seigneur que nous ayons une vue intérieure concernant ces choses. Comme Frère Lee avait dit, nous devons, pas nous devrions, mais nous devons avoir une vue intérieure, une clairvoyance concernant ces choses, concernant ces promesses. Lorsque le Seigneur fait une promesse, assurément, nous pouvons lui faire confiance. Et de notre côté, nous avons ce sentiment intérieur que ce que Dieu promet est digne de notre pleine confiance. C'est pour cela que nous devons payer le prix dans cet âge pour endurer tout ce qui est nécessaire dans cet âge. Parce que nous croyons à la promesse quand le Seigneur dit « Tu règneras avec moi pendant 1000 ans ». Nous pouvons dire, Seigneur, je ne veux rien pour moi dans cet âge. Je veux juste être un membre du corps. Juste une portion d'être membre de ton épouse. Et que tu actives la foi en moi, que tu développes la foi en moi. Pour que je puisse être un co-roi. Donc nous croyons en ces promesses qui sont parfaites. Nous croyons simplement en ces promesses. Nous avons tous été profondément heurtés à un point ou à un autre par des promesses qui nous ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Et quand ça s'est produit, quand ces ruptures de promesses, ces promesses brisées se sont produites. On a été très touchés et on a eu une réaction de ne plus jamais faire confiance à personne, à quiconque qui nous fait des promesses comme ça. Mais avec le Seigneur, on peut vraiment lui faire confiance. Confiance dans le fait que le meilleur est à venir. Que le Seigneur qu'il puisse régner à travers nous, en nous, dans cet âge, que nous puissions lui dire, Seigneur, œuvre en moi dans cet âge, et je garde la foi dans cette promesse que je serai un co-roi avec toi. Le point 6. En principe, ces promesses peuvent aussi s'appliquer aujourd'hui. Et nous pouvons les goûter à l'avance maintenant. Nous avons donc un avant-goût. C'est une sorte, C'est un goût de l'âge à venir. Le Seigneur veut nous donner un avant-goût pour que nous réalisions, waouh, ce sera ça pendant 1000 ans. Et voilà un petit aperçu. Donc c'est un avant-goût. Et donc, encore une fois, ces principes, ces promesses peuvent aussi s'appliquer aujourd'hui. Et juste maintenant, ces principes de Dieu sont appliqués en nous, pour chacun d'entre nous. Si on continue sur ce chemin, en étant des vases ouverts à lui, et qu'on se remette complètement à lui, et qu'on ouvre toutes les profondeurs de notre être, et que jour après jour, pas à pas, pour arriver à la quatrième étape de l'expérience de la vie, et qu'on est préparé de toutes les manières possibles pendant notre temps sur la terre, alors vous pouvez avoir pleinement confiance dans le fait que le Seigneur va nous bénir avec cette promesse et qu'on sera des corois. Et personnellement, je ne suggère pas que vous lui demandiez « Oh, s'il te plaît, donne-moi cet endroit ou cet endroit-là. » Ça, notre attitude doit être « Oh, c'est déjà bien que je sois là, que je sois un corois. » Donc, soyez déjà content avec ça. Et notre attitude doit être qu'on est content d'être des corois et de voir tellement d'autres saints avec nous. Le point 7. Il n'est aucun besoin d'attendre pour entrer dans l'âge du royaume pour nous réjouir de toutes ces portions spéciales. En d'autres termes, nous ne sommes pas encore dans le royaume, la manifestation du royaume qui va être manifestée sur la terre, mais nous vivons et nous expérimentons notre vie dans le royaume. C'est comme ce chant que nous avons chanté. Et ce chant indique, si je me rappelle bien, il n'y a pas beaucoup de chants sur le royaume, mais ils sont tous été écrits par soit frère Ni, soit frère Li. Ça veut dire qu'il n'y a aucun chrétien sur la terre qui avait cette compréhension spirituelle-là. Et en fait, nos deux frères étaient des exemples de vivre une vie dans la réalité du royaume. Et c'est ça, seulement une pensée. Le frère Ni était né dans le sud de la Chine. Et le frère Li était né au nord de la Chine. Et tous les deux, ils ont beaucoup souffert dans l'endroit où ils étaient. C'est pour ça que je me rappelle, en 1948, quand frère Ni, il a rassemblé tous les collaborateurs. Il a dit, nous savons que parce que le nouveau président qui a été élu aux États-Unis, il ne va pas se battre pour nous, il ne va pas combattre cette idéologie qui nous fait du mal. C'est pour ça qu'on va souffrir ces prochains temps. Il y avait beaucoup en jeu à ce moment-là. Il a dit, il faut et frère Li et frère Ni, ils ont beaucoup pleuré, mais quand frère Ni est allé en prison, il avait dit à frère Li, tu dois continuer l'œuvre.
sinon ce sera perdu. Tu dois répandre cela sur la terre. Et un frère Lee est venu aux États-Unis et cela ensuite s'est répandu depuis les États-Unis sur toute la terre. Et comme j'ai déjà dit, n'est-ce pas une telle gentillesse de la part de Dieu, une telle bénédiction que nous soyons là, que nous ne fassions pas partie du système religieux, de la chrétienté, mais que nous soyons dans le recouvrement du Seigneur et qu'à présent nous apprenions point après point que même si nous sommes ici dans la vie d'Église, en fait, l'Église, c'est le royaume. Donc, c'était l'évangile du royaume qui nous a amenés dans l'Église. Et à présent, la fonction de l'Église locale, c'est d'amener le royaume sur la terre. Donc, nous sommes une sorte de canal. Ça ne veut pas dire que, réunion après réunion, nous parlons du royaume, seulement du royaume, mais nous réalisons que alors que nous sommes dans la vie d'Église, nous ne sommes pas seulement dans une maison spirituelle, mais nous sommes aussi dans le royaume de Dieu et sous son autorité. Et nous apprenons ce que l'autorité du Seigneur est, comme je l'ai déjà mentionné. Et je me rappelle une sœur plus âgée, très brillante, très intelligente, elle nous avait dit une fois qu'elle était très... Elle a dit, je suis très contente d'être dans l'Église. C'est ma maison, c'est mon foyer. Mais d'être dans le royaume... Donc c'était une personne très forte à ce moment-là. Et elle a eu une fin très merveilleuse. La fin de sa vie, la fin de sa course était merveilleuse. Et pour que nous puissions être des co-rois dans les 1000 prochaines années, nous devons apprendre à savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être sous son autorité. Et nous devons apprendre à nous asseoir avec lui sur le trône. Donc ça, c'est en train de se passer dans notre vie quotidienne. Ça doit se passer dans notre vie quotidienne. Ensuite, le point 8. Aujourd'hui, dans la vie d'Église, nous avons le privilège de jouir du royaume. Jouir du royaume. Je crois que c'est dans Éphésiens ou Colossiens, peut-être. Il y a cet aspect du royaume. Le royaume, c'est le royaume du Fils de son amour. Et j'ai donné plusieurs messages là-dessus, sur le fait que lorsque nous sommes dans la vie d'Église, nous sommes dans le royaume. Et notre vie dans le royaume est révélée dans Matthieu, dans Marc et dans les autres évangiles. Et donc maintenant, nous réalisons que nous ne sommes pas dans une attitude de peur et de tremblement par rapport à l'autorité de Dieu, mais que nous sommes dans la sphère, dans le royaume du Fils de son amour, et que lorsque nous vivons dans la sphère du royaume, nous et tous les saints devons réaliser, nous sommes dans cette sphère qui est remplie d'amour, et que Dieu règne par l'amour. Et bien sûr, par la vie, par la grâce. Et donc, c'est ça notre atmosphère. Donc, on a les deux côtés avec Matthieu. Et ensuite, plus tard, dans ses épîtres, on a le royaume du Fils de son amour qui brille sur nous, qui nous paie dans une atmosphère si merveilleuse. Et sur un autre plan, sur un autre niveau, nous devons connaître les versets et les extraits du ministère qui nous donnent une compréhension que nous sommes dans le royaume du Fils de son amour, que cette atmosphère est là et que nous avons ce même amour. Nous devons avoir ce même amour pour chacun. Nous ne devons pas avoir un amour particulier pour telle personne et une autre sorte d'amour différent pour une autre personne. Donc cet amour égal, uniforme pour chacun, ne va pas seulement se passer pendant le royaume, mais doit se passer aujourd'hui. Et quand ça se passe, nous pouvons remercier le Seigneur. Et je peux honnêtement dire que juste maintenant, nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Et j'aime chacun de vous de la même manière. De la même manière, avec le même amour. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre âge, peu importe vos dispositions, tout cela n'importe pas. Parce que c'est le même amour qui se développe en vous et vous allez quitter cette conférence avec plus d'amour que lorsque vous êtes venu. Parce que vous n'êtes pas seulement aimé plus, mais vous allez aimer plus qu'avant. Parce que nous vivons dans le royaume du Fils de son amour, dans cette sphère d'amour. Et donc maintenant nous sommes dans le recouvrement du Seigneur et nous regardons vers le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il peut faire. Et pour cela, nous pouvons lui dire, Seigneur, je m'ouvre à toi encore une fois. Réponds à cette décision que je fais, Seigneur, avec tes voix, avec ton timing, que dans ta gloire, pour ta gloire, fais de moi un saint vainqueur. Et je crois que à ce moment précis, Dieu le Père, il écoute, il entend et il répond. Donc, maintenant, priez simplement avec quelqu'un. On fera ça aussi avec les saints qui vont donner la parole de conclusion. Et venez au microphone. Ce n'est pas une formation, mais s'il vous plaît, lorsque le piano va retentir, alors arrêtez-vous dans la minute qui suit. Ce n'est pas une formation. Donc, j'ai confiance dans le fait que vous allez faire de votre mieux. Donc, venez témoigner que Satan a encore une fois été vaincu. Et louons le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Donc, priez, s'il vous plaît, priez.